isso ou não?
Sim.
Nous avons choisi de vous proposer en ce mois de juillet et puis plus tard en août prochain les meilleurs moments de la saison 1 de Dissonance, l'émission diffusée sur Radio Centrafrique depuis octobre 2015. Ce mois-ci, nous vous proposons d'aller à la rencontre de Jean Vaz, Sabine Geoffrey, Michel Juillard, Isabelle Lemoyle et Christian Arago. L'occasion d'entendre parler dans le poste d'éthique, d'histoire avec un grand H, d'engagement et d'humanisme. Autant de thèmes déclinés aujourd'hui par nos cinq invités. Bonne écoute.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Les longues files de réfugiés qui quittent aujourd'hui leur pays le font pour des raisons évidentes. Ils fuient la guerre et la mort, ils fuient aussi l'intégrisme, l'obscurantisme et la dictature. Ces personnes, comme nous, aspirent à la liberté, l'égalité et la fraternité.
Ce drame actuel a bien des similitudes avec ce qui s'est passé à la fin de la guerre d'Espagne, il y a 76 ans.
Avec Jean Vaz, nous allons évoquer ces événements d'hier, parce que l'exode d'aujourd'hui, de ces milliers de Syriens, Irakiens, Afghans, Érythréens, rappelle dramatiquement sur de nombreux points la « retirada » des républicains espagnols.
Ce soir, il sera question de l'exil des républicains espagnols en 1939. Ce soir, il sera question des réfugiés d'aujourd'hui. Ce soir, il sera question de frontières et de murs à abattre.
Dissonance.
Joseph Fulat sur Radio Centrafrique.
Moi, je m'appelle Jean Vaz Aranzales, parce que depuis que j'ai la double nationalité, j'ai récupéré le nom de ma mère. Donc. Je suis né à De Casville, dans une famille espagnole et dans un environnement espagnol, de réfugiés espagnols, et plus précisément dans un environnement libertaire, qui était mon père et des cousins de ma mère aussi, venus d'Espagne. J'ai été enseignant toute ma vie. Si je recommençais ma vie, je serais enseignant de nouveau, parce que tout passe pour l'éducation. Hein. Et donc voilà, donc maintenant je vais avoir 74 ans le mois prochain, en décembre, et le tempo passe. Et voilà, et je travaille beaucoup sur la mémoire espagnole, sur la mémoire de l'exil espagnol. On a créé une association il y a une douzaine d'années. On a un peu pinaillé pour trouver le nom. Et du fond de la salle, quand on cherche, on ne voulait pas que ce soit une association anciens combattants. Et donc, on cherchait quel mot associer à Memoria. Et du fond de la salle, un gars qui est désgracieusement mort maintenant, a dit « andando ». Et donc, d'un point de vue de la syntaxe, c'est pas très correct, memoria andando. Mais c'était tellement beau. Et voilà, et on essaie d'être une mémoire donc en marche, c'est-à-dire avec une prise assez directe sur l'actualité espagnole, etc. Donc, voilà.
La garde d'assaut marche, boum, badaboum, badaboum, bam, bam. La garde d'assaut marche, boum, badaboum, badaboum, bam, bam. Au centre téléphonique, ay Carmela, ay Carmela. Au centre téléphonique, défi aux prolétaires, boum badaboum badaboum bam bam. Défi aux prolétaires, boum badaboum badaboum bam bam. Provocation stalinienne, aïe Carmela, aïe Carmela. Provocation stalinienne, aïe Carmela, aïe Carmela.
Et justement, puisque le but de l'émission, c'est un petit peu de faire d'évoquer ce qui arrive en Europe avec cet accueil ou cette réserve sur l'accueil des migrants, j'ai lu un texte récemment écrit par Memorial Dando qui faisait un petit peu le parallèle, ou qui essayait de faire le parallèle entre ce qu'était l'exil, l'exil des réfugiés politiques en 1939 et cet accueil de migrants qui arrive en 2015. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu que fuyaient les migrants qui sont arrivés en février 1939 en France et qui venaient d'Espagne?
Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent mal l'histoire espagnole, je rappelle en deux mots qu'en juillet 1936, en juillet 1936, le 18 juillet, une grande partie de l'armée espagnole se soulève contre le gouvernement légal de la République en s'appuyant sur l'Espagne noire, l'Espagne réactionnaire, l'Espagne catholique. Et très vite, en recevant l'appui de l'Allemagne nazie, de l'Italie mussolinienne, et on oublie souvent de dire du Portugal, salazariste, qui envoie quand même 50 000 hommes en Espagne. Donc c'est le début d'une guerre civile qui va durer presque 3 ans. Les républicains vont défendre pied à pied la République et pour certains la Révolution qu'ils ont essayer de mettre en place dès le 19 juillet 36. Mais le déséquilibre des forces était trop important. On parle souvent des antagonismes dans le camp républicain. On ne peut absolument pas penser que c'est ce qui a provoqué la défaite. La défaite, c'est qu'il y avait un déséquilibre trop grand entre des armées de métier super armées. Si on met les franquistes, les Allemands et les Italiens en particulier. Et donc ils vont être acculés à la défaite quand la Catalogne tombe en janvier 1939. Et ils n'ont pas d'autre solution que de passer la frontière française, ou d'essayer du moins de passer la frontière française, parce qu'ils sont harcelés complètement par les avions, bombes, balles, qui les mitraillent sur les routes et sur le chemin. Donc toute cette population qui s'est concentrée souvent en Catalogne fuit vers la France.
Et elle fuit dans des conditions difficiles, c'était dit.
Alors c'est en janvier puis février. En plus, la frontière est fermée jusqu'au 26 janvier pour les civils. Pour les militaires aussi, elle n'ouvrira pour les militaires que le 5 février. Donc tout ce monde est dans les sentiers de montagne avec 50 à 60 cm de neige, sans le moindre abri, évidemment. Et avec une résistance avec 30 000 hommes massés sur ces 100 ou 120 km de frontière entre Cerbère et Place de Molló, par exemple. Et donc, on y reviendra peut-être, mais un accueil qui a été un gros traumatisme pour tous ces gens-là. Quand je dis ces gens-là, ça veut dire, en gros, on parle de 440 000, 450 000 personnes, presque un demi-million de personnes, avec 170 000 femmes, pour autant que je me souvienne, donc beaucoup d'enfants, des vieillards, des invalides et à peu près 220 000 militaires ou miliciens. Voilà ce que suppose donc cet exil, mais qui se fait encore une fois dans des conditions très difficiles. Très difficiles d'abord parce que c'est le traumatisme de la défaite. Ils ont lutté quand même depuis juillet 36 jusqu'en janvier 39. Et ensuite, cette marche, qui est une marche harassante, ils sont affamés, il n'y a rien pour manger, presque tout ce monde traverse à pied, non? Depuis Barcelone ou plus bas, monte à pied, jusqu'à... Et puis aussi l'accueil, parce que l'accueil, pour les Espagnols, la France, c'était vraiment le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, et moi je sais, pour avoir connu beaucoup de gens qui ont passé la frontière à ce moment-là et qui ont été dans les camps, c'est un traumatisme à vie. Mon père disait « Nunca les perdonaré ».
Ton père a fait cette marche, cette
oui, bien sûr. Hein, mon père est passé vraiment dans les derniers, le 13 février, au col d'Arc qui donnait sur Prasemollo, qui était un camp de triage, on va dire. Hein. Mais là, il faisait des trous dans la neige pour se protéger du froid. Et pourtant, l'accueil du village de Place de Molló a été intéressant. Mais il n'y avait rien. La France n'avait rien prévu pour les accueillir, alors que depuis depuis la bataille de Teruel et plus tard de l'Ebre, on savait bien que la guerre était perdue pour les Républicains et on savait bien qu'ils allaient se précipiter sur la frontière française parce que on savait aussi que chaque fois que les franquistes conquéraient une nouvelle partie du territoire, la répression était terrible. On fusillait à tour de bras. Donc c'était la mort. Donc il fallait passer la frontière. Donc la vraie raison, c'est ça, c'est échapper à une répression terrible. Et donc voilà, donc il a, pour ce qui est mon père, il est resté peu de temps à Place de Moyo parce qu'un cousin de Casville, immigré, gallego, claro, est venu et puis a essayé de légaliser un peu sa situation, l'a amené à Decazeville. Très vite, le commissariat à la police l'a renvoyé à Place de Moyo. Après quoi, comme c'était un camp d'hébergement en quelque sorte, hein, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de baraque, il n'y avait rien du tout, il y avait la neige et le ruisseau. Ils n'avaient même pas besoin de mettre les barbelés parce qu'il y avait un ruisseau que tu ne traversais pas au mois de février, un torrent. Et après, beaucoup de places de Moyo ont été envoyées soit vers Argelès, hein, on en reparlera peut-être des camps, soit vers Sept-Fonds, à côté de Montauban. Mon père a atterri à Sept-Fonds, où il y avait quand même 15 000 réfugiés.
Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Cuando se pierde el juicio, y yo pregunto cuándo se pierde, cuándo. Si no es ahora que la justicia vale menos que el orín de los perros. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos.
Dissonance. Est-ce qu'aujourd'hui, tout artiste qui veut être reconnu doit passer sous les fourches codines des installations, des performances, des vidéos soporifiques ou des photographies plasticiennes? Ou alors existe-t-il des créateurs, des artistes qui ne se plient pas aux diktats de l'art officiel que certains, comme l'écrivain Alain Leduc, qualifient de cynique, de ludique et de futile?
Aujourd'hui, nous recevons deux de ces artistes qui créent dans le silence de leurs ateliers et qui sont aux antipodes des attitudes institutionnalisées.
Il s'agit de Sabine Geoffrey et de Michel Julliard, deux artistes qui marchent sur les chemins du vent et créent dans les marges. Deux artistes enragés et engagés, réunis par leur éthique face à leur création artistique.
Dans cette émission, nous allons parler de l'art contemporain, de la place de l'éthique dans la pratique artistique. Nous allons évoquer le formatage et le marché de l'art. Et il sera question de l'engagement de l'artiste et de sa liberté de création.
Dissonance.
Joseph Hula sur Radio Centrafrique.
Bon ben Sabine Geoffrey, je suis graveur, on va dire graveur d'art. Sur le Tarn à Carmaux maintenant. Enfin, je fais un petit détour par Centrafrique à une période, mais maintenant sur Carmaux. Et donc voilà, tout un travail à la fois de cours à l'atelier, de création personnelle et d'intervention, de transmission aussi aux plus jeunes et dans les écoles et dans le... voilà.
Michel Julliard, moi j'habite dans le Rougier de Camarès, je suis parisien d'origine aussi, hein, donc il y a des choses qui nous relient avec Sabine dont on ne parle pas forcément là. Mais... on s'est rencontrés par ici d'ailleurs. Voilà, donc moi je fais de la peinture depuis toujours, sauf que depuis un peu plus de 20 ans maintenant, je n'ai fait que de la peinture. Avant j'ai fait d'autres boulots, j'étais éducateur, j'ai bossé comme responsable d'animation en village vacances, enfin, des choses très très différentes. Et à partir du moment où j'ai commencé à ne faire que de la peinture, ben, j'ai aussi travaillé dans les écoles, travaillé à l'hôpital de Rodez, dans plusieurs lieux différents, dans les médiathèques. Voilà, et donc mon travail, ben, c'est surtout effectivement peinture sur toile ou sur bois, mais aussi avec des poètes, en faisant des livres avec eux, soit avec des éditeurs typographes, soit à 4 ou 6 exemplaires à l'identique.
Dissonance, les invités du mois, Sabine Geoffrey et Michel Julliard sur Radio Centrafrique.
Il me semble, Sabine Geoffrey et Michel Julliard, que ce qui vous relie, c'est entre autres votre éthique. Qu'en pensez-vous et comment vous l'expliquez?
Oui, je pense qu'il y a... Enfin, ça vient aussi peut-être du fait qu'on n'est pas arrivé dans une pratique artistique régulière par le biais d'une école au départ, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, je pense qu'on a des parcours différents, puisque moi, après, je suis passé par l'école, à un moment, mais j'avais déjà, à 35, ou voilà, vers 35 ans, j'ai été chercher une formation plus théorique, d'ailleurs, que pratique, au départ. Et, enfin, voilà, je crois qu'on a tous les deux, tu dis si je me trompe, mais qu'on s'est d'abord frotté au monde, on s'est d'abord frotté à un certain nombre de choses, à la politique, au social, avant de dire je vais prendre un pinceau, je vais prendre un burin pour dire les choses. Donc, enfin, moi, ça me semble être un des éléments importants. En tout cas, pour moi, ça l'a été. C'est-à-dire de pas avoir abordé l'aspect artistique par la technique et par uniquement les conditions d'expression. Mais voilà, à partir du moment où moi j'ai été chercher une pratique artistique, c'est parce que il me semblait que les autres... tout ce que j'avais essayé avant ne me satisfaisait pas, en tout cas. Dans le social, on me disait il n'y a pas de réponse. Dans l'éducatif, on me disait on ne peut pas tout faire. Et je me suis dit, peut-être du côté du culturel, de l'art, il y a peut-être des réponses possibles. Bon, je sais maintenant que... je sais maintenant que la recherche est vaine. Mais... En combinant les trois, peut-être qu'on va arriver à quelque chose.
Et toi aussi, Michel,
Moi, je pense que c'est effectivement ce que dit Sabine, je suis assez d'accord, d'autant que le fait d'avoir en premier lieu, au lieu de faire la peinture uniquement, d'en vivre et de faire des expos, d'avoir été confronté à des milieux de travail très différents, donc d'avoir rencontré, fait du boulot tout simplement de manutentionnaire, de faire des boulots de bureau, de faire des boulots en tant qu'éducateur ou animateur, et bien, effectivement, ça m'a permis de rencontrer tout un tas de gens tout à fait différents, qui pour la plupart sont pas du tout sensibles à l'art, donc on l'oublie pas ça, c'est-à-dire que même quand on est dans le milieu artistique, bien sûr on rencontre surtout des gens qui sont intéressés par l'art, mais les autres existent, et l'envie un peu de toucher ces gens-là, parce que finalement c'est ça l'intérêt, c'est pas tellement de toucher ceux qui s'intéressent, il n'y a pas de souci, c'est les autres. Mmh. Et je crois que c'est effectivement ça qui fait que quand on a fait autre chose pour manger tout simplement, hein. Et il y a d'autres artistes comme ça, hein, qui ont mené des fois les choses en parallèle. Je pense à un peintre là qui lui était mi-temps tout le temps, en même temps peintre et en même temps comptable. C'est assez curieux pour pouvoir effectivement faire les deux, être libre aussi, c'est-à-dire ne pas un peu comme quelqu'un qui est écrivain et qui ne ferait qu'écrire. Il serait, si ça fonctionne, au bout d'un moment, il est un peu condamné par les maisons d'édition à écrire ce qu'on lui demande. Mmh. Celui qui continue à travailler en même temps, il est libre. Donc, il écrit ce qu'il a envie. Voilà, il y a aussi cette notion-là. Mmh.
Et puis, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, dans l'émission, mais la séparation entre art et travail, c'est un peu nouveau. Et je veux dire, on a travaillé dans autre chose avant. On a une pratique artistique maintenant qui s'associe aussi à d'autres activités. Et moi, ça me paraît important de dire que une pratique artistique, c'est pas dissocié du travail. Mais on en reparlera. Mmh.
Je suis le nombril du monde, tu es le nombril du monde. Le nombril, la lune aussi est le nombril du monde. La lune aussi est le nombril du monde. Je t'ignore, tu m'ignores, la lune aussi nous ignore. C'est égal. C'est égal, on est quand même tous le nombril du, on est quand même tous le nombril du, on est quand même tous le nombril du monde. Je suis le nombril du monde, tu es le nombril du monde. Le nombril, la lune aussi est le nombril du monde. La lune aussi est le nombril du monde. Ignore, tu m'ignores, la lune aussi nous ignore. C'est égal, c'est égal. On est quand même tous le nombril du, on est quand même tous le nombril du, on est quand même tous le nombril du monde. Je suis le nombril du monde, tu es le nombril du monde. On est quand même tous le nombril du, on est quand même
Et cette dissociation entre art et travail, est-ce qu'elle vous a évité le formatage? Le formatage par les écoles, le formatage par les standards de ce que l'on attend d'un artiste?
Ouais, bah, de toute façon, on est quand même formaté, hein. De toute manière, on n'y échappe pas, je crois, tous, c'est très, on sort pas de la société, de toute façon. Ça, c'est un fantasme. Donc, je crois pas. Mais par contre, c'est sûr qu'on est beaucoup plus réticent à des choses qui peuvent être évidentes pour d'autres, parce que voilà, c'est dans l'apprentissage. C'est une vieille phrase sur le sport qui disait la technique de l'autorité est une autorité de la technique. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est une lutte permanente contre ça, c'est-à-dire que sous prétexte que pour arriver à faire tel ou tel travail artistique, il faudrait forcément suivre tel cursus et forcément avoir tel geste, etc. Dans la réalité, c'est pas vrai, parce qu'à partir du moment où on fait ça, on est plus créatif. Donc effectivement, on a besoin de certaines bases. Voilà, on a besoin, si on ne sait pas... moi, je ne sais pas dessiner, par exemple, au sens... voilà, donc j'ai été effectivement pendant un an et demi dans une école, j'ai même pris des cours du soir, j'ai toujours été aussi nul, jusqu'au moment où je me suis dit que ce n'était pas le problème. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, si j'avais quelque chose à dire, il fallait que je trouve le moyen de le dire, et qu'il fallait que je sorte, moi, par contre, des canons habituels de l'esthétique, alors que d'autres, justement, eux, les possédaient, et par contre, n'arrivaient pas à en sortir. Voilà, donc n'avait aucune créativité. Tout le monde ne s'appelle pas Picasso, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas la capacité à la fois d'être un excellent, très bon dessinateur, un grand peintre, et en même temps faire un pas de côté. Ça, c'est rare. Mmh. Hein, soit on est dans une démarche malheureusement très très scolaire, je dirais, et voilà, et on arrive du mal à créer parce que c'est pas notre truc, quoi. On sait faire, voilà. Soit l'inverse. C'est.
Par contre, je pense que les pratiques, et là je parle pas d'école, hein, je parle bien de pratiques. Je pense que les pratiques artistiques de tout temps, donc aujourd'hui encore, vont amener, amènent de toute façon des choses comme l'attention, l'observation. Un regard critique et pas forcément critique sur le monde, mais critique sur ce qu'on fait, déjà c'est déjà pas mal. Et puis de la constance, parce que moi, quand il y a des gens qui passent à l'atelier en me disant oh, on pourrait prendre un cours de gravure 2 heures un jour, ça me fait exploser de rire. C'est pas possible avec une pratique artistique. La consommation, on consomme pas que des biens matériels aujourd'hui, on consomme malheureusement aussi on amène les gens à consommer de la culture et ça c'est pas possible avec les pratiques artistiques, on le sait, on peut pas. Moi, la gravure, ce que je leur dis, j'ai passé 6 ans à acquérir dans un atelier, je fais comment pour vous le transmettre en 2 heures? Soyez sérieux, quoi. Donc, les pratiques artistiques, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit les arts plastiques, la musique, le théâtre, elles amènent de toute façon, elles maintiennent dans quelque chose d'humain au sens d'un chemin qu'on doit faire pour arriver là où on veut et pas cette illusion que je zappe et j'y vais, quoi. Mmh. Et donc ça, je trouve ça intéressant. En ça, ça s'apprend pas forcément à l'école. À l'école, on peut apprendre une technique, on peut apprendre, mais c'est la pratique et c'est différent.
Dissonance. Caminante, no hay camino, el camino se hace al andar. Ce qui veut dire, il n'y a pas de route toute tracée, c'est à toi de la tracer en avançant. Cette phrase, tirée d'un poème d'Antonio Machado, illustre bien le parcours atypique d'Isabelle Lemoyne.
Née en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, sous le franquisme, petite enfance vécue dans un bidonville du côté de Barcelone, en compagnie des gitans. Arrivée en France, intégration réussie grâce au militantisme des hussards noirs de la République, Isabelle Lemoyle, avéronaise de cœur, a continué sa route comme enseignante en France, puis en Amérique latine, pour la poursuivre de nos jours au Pérou, dans un bidonville de Trujillo.
Un itinéraire parfaitement défini par le texte de Jean Ferrat, « Nul ne guérit de son enfance ».
Dans cette émission de Dissonance, il sera question d'un parcours de vie exceptionnel, d'une enfance pauvre financièrement mais riche de rencontres et de découvertes, d'un élan donné par ses parents qui a permis à Isabelle de pédaler toute seule et d'avancer, mais aussi d'un investissement solidaire. Dans cette émission de Dissonance, nous allons évoquer le chemin d'Isabelle Lemoyle qui va nous conduire des bidonvilles de Barcelone à ceux de Trujillo au Pérou.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Centrafrique.
Isabelle Lemoyle, pour moi tu es une personne atypique et j'aimerais que les auditeurs de notre radio puissent te découvrir, t'entendre et puissent t'accompagner dans l'action que tu mènes de nos jours. Mais d'abord Isabelle, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu t'appelles Isabelle Lemoyle ou est-ce que tu as un autre nom?
En réalité je m'appelle Isabelle Barnés Carrillo. Et qu'on rajoutait traditionnellement pendant mon enfance sous le franquisme, para servir a Dios y a usted, à savoir pour servir Dieu et pour vous servir. Mon père a eu une enfance très, très difficile, comme tous les Espagnols de l'époque. Hein. Il vivait du côté de Lorca, une terre extrêmement aride. On dit que Jésus est passé par là quand il faisait le tour du monde, du temps de son époque globe-trotteur, et qu'il aurait secoué sa cape en partant, il aurait dit « de Lorca ni el polvo », à savoir « de Lorca, je n'en veux même pas la poussière ». Ceci pour exprimer combien la difficulté de vivre dans ces terres-là. Donc ma grand-mère et tous ses enfants, ses quatre enfants, sont venus vivre à Barcelone en quête de travail. Mon grand-père, lui, préférait promener le fusil du propriétaire qui les employait du côté de Lorca. Et il est venu un peu plus tard. Donc ma grand-mère s'est bien débrouillée, les enfants ont travaillé là. Mon père a beaucoup travaillé dans les mines. Et après, il a fait un petit peu de tout. Il a été charbonnier, il a fait un tas de boulot. Et puis il y a eu la guerre, où il est parti volontario dans le camp républicain.
La guerre donc en Espagne.
La guerre de 39, pardon, dime la fecha que no me acuerdo.
18 de julio de 1936.
De 36 à 39, voilà, le 18 de julio. Donc il est parti volontaire, bon il a subi comme tout le monde les horreurs de l'époque. Il a été fait prisonnier alors qu'il essayait de s'échapper avec son ami Pellegrine et rattrapé par un groupe de Marocains, renvoyé en camp de concentration, puis bon, après libéré à la fin. Je ne sais pas à quel moment parce que je n'ai pas les dates. Ils étaient déjà mariés avec ma mère et ma mère a eu l'occasion, elle nous racontait sa visite au camp de concentration pour amener du pain à mon père, du pain récolté dans la rue que les gens lui donnaient, et combien elle a été reçue très chaleureusement par les gardiens du camp, tellement chaleureusement qu'elle a bien dit qu'il pouvait mourir là, que jamais il ne reviendra à cet endroit. Parce que les tentatives de séduction avaient été plus que pressantes et que de voir autant de misère, elle ne supportait plus. Donc, quand mon père est parti, ça a été échappé, s'est échappé, puis rattrapé, puis enfin libéré. Et bien, après quelques années de mariage un peu difficile, parce qu'ils ont eu un enfant qui est décédé, et il y a eu la petite merveille que je suis. Voilà.
Et ta maman est de la même région que de ton
père ? Ma mère était de Murcia, Lorca, et elle avait été venue en 27, elle était petite, elle avait 7-8 ans. Elle est venue vivre à Barcelone où ses parents ont trouvé du travail, quoi. Donc, même parcours avec quelques années de différence, mais ils se sont rencontrés à Barcelone.
Alors, Barcelone, c'est en Catalogne. Murcia, oui. Lorca,
c'est plus vers le sud,
voilà.
Hein, en Andalousie.
Est-ce que vous étiez considérés comme des immigrés?
Alors, nous avons été considérés tout le temps comme charnegos, à savoir que les Catalans n'ont jamais, du moins à l'époque, je parle quand j'y étais, intégré les charnegos. Ils surnommaient ceux qui venaient du sud pas Iseva, c'est-à-dire pain et oignons, qui devait être leur menu quotidien, je suppose. Et la preuve que nous n'avons jamais été intégrés au monde des Catalans, je parle encore une fois de l'époque des années 50-60, c'est que nous sommes partis en 56, moi j'avais 9 ans, je ne parle pas le catalan. Je suis arrivé en France en 56 avec mes parents. au bout de 6-7 mois, je parlais le français. Ce qui est une preuve de, cet accueil qu'on a eu, malgré les difficultés, où on a quand même, on nous a acceptés et souvent aidés. Ce qui n'a pas été le cas avec les Catalans, je peux dire. Donc, je suis née à Barcelone, mais de culture et d'appartenance murciana. Pas question de me dire que je suis catalane, parce que là, je sors mon pistolet. Ça, pas question. Mais non.
Et à Barcelone, donc, tu as vécu.
Alors, à Barcelone, voilà, le parcours. Je suis née donc dans la banlieue de Barcelone, Santa Coloma de Gramenet, exactement. Mon père a fait un petit peu tous les métiers, puis il a fini par travailler dans une fonderie. Il a eu la bonne idée avec mon oncle Thomas de faire quelques pas discrets dans le syndicalisme. Ils étaient tellement discrets qu'au bout de quelques mois, on les a mis à la porte. Donc, ça a été le début d'une descente aux enfers un petit peu, parce qu'ils avaient un petit bout de terrain qu'ils ont dû vendre. Étant presque illettrés, on les a arnaqués sur les sommes qu'on devait donner. Ils n'ont eu que le premier versement de ce terrain, de cette petite baraque. Donc mon père a été obligé de partir et de construire une chabola, c'est-à-dire une petite baraque avec le toit en ovalite, hein. Et on est parti alors à l'extérieur, parce que c'était pas cher, à côté de Sabadell, qui est une zone industrielle, mais nous on était vraiment dans les champs. Et ça a été le premier qui a inauguré le bidonville, donc à ce titre je pense qu'on devrait me donner une reconnaissance là, hein,
tout à fait,
comme pionnière. Et donc ma soeur était née entre temps, mon père, ma mère gardait la petite chez ma tante, puisqu'on n'avait plus de maison. Et mon père a fait quatre avec des briques superposées, on a fait une cabane. Et je suis partie avec lui, n'étant pas scolarisée. Donc je suis partie avec mon papa vivre là-dessous. On n'avait ni eau, ni électricité, ni rien du tout. On allait chercher l'eau dans une ferme, il y a 300 ou 400 mètres avec un seau. Et je me souviens de m'être réveillée un matin, il n'y avait plus mon papa. Dans cette cabane, j'étais toute seule, j'ai hurlé, je m'appelais, je ne le voyais pas. Parce que la ferme était assez loin, donc... Quand il est arrivé, j'étais en larmes et il m'a dit, pero tonta, te creías que te iba a abandonar? Ok, pero lo seas tonta.
Voilà. Tu croyais que j'allais t'abandonner?
Voilà, tu croyais que j'allais t'abandonner. Bon. Ouais. Alors après, les oncles sont venus et ils ont fait une maison en dur avec le toit, donc, comment c'est dit, en ovalite, hein,
oui,
en tôle ondulée, là, je ne sais pas, voilà. Oui, oui. Et c'est là qu'on a vécu pendant 3 ans. Mais comme il y avait de l'espace, d'autres chabolas comme ça, d'autres petites maisons, si on peut appeler ça des baraques, se sont mises un petit peu partout, et en particulier sont arrivés les gitans. Les gitans qui n'avaient pas d'espace à eux nulle part. Donc comme là, c'était à personne pratiquement, ils se sont installés. Et ça a été une grande aventure pour moi, parce que ça a été un monde extraordinaire. Non, on partageait beaucoup de choses, les morceaux de poules crevées, les poux, les bonnes rigolades, voilà. Le petit coin pour aller faire pipi et caca, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de toilette. Mmh. À tel point, on s'est tellement lié que mon père s'est mis en affaire avec un digital. Et il a fait un mur, un tabique, un mur entre notre logement... Et ils ont fait 2 pièces, donc on avait les gitans mitoyens. ça a duré presque 3 ans. Et puis mon père est parti parce que on ne sait pas s'il était fiché, s'il était. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il était devenu chiffonnier avec mon aide précieuse, parce qu'on allait faire les dépotoirs le matin de bonne heure. Mais très souvent, on était arrêté. Moi j'étais enfant, par la guardia civile qui prétextait que le chien était descendu de la charrette, c'était une charrette et un cheval, que la lumière de la lanterne, puisqu'en partie il faisait presque nuit, il y avait du vent, c'était... Alors il avait une amende tous les 2 ou 3 jours. Donc il se proposait un de ces quatre de tuer un des flics. Donc ma mère, à son corps défendant, l'a poussé à partir. Voilà. Il est venu donc chez sa tante, il avait une tante avec qui il avait perdu le contact, mais qu'il a retrouvé à Albi. Après qu'on est parti dans la Corrèze faire le bûcheron.
Con mi carita de gitano, alma de loco bueno, y con mi melena al viento, con mis ojos de dolor, devoré a mi soñador. y aunque ya nunca sueño. Con mis manos yo toqué tanta música de amor y fe que partí los corazones. Con mi boca que bebió, que besó y que mordió y que nunca calmó mi ser. Carita de gitano, alma de loco bueno, y con mi melena al viento, con mi pie que se curtió, con el sol y la caricia, ay que la vida ya ni me dio. Y con este corazón que se sufrió y sufrió y nunca pudo quedarse. Y mi alma que no tiene ninguna oportunidad, ay, deprisa, ay, y el cielo te nombró. Con mi carita de gitano, alma de loco bueno, y con mi melena al viento, te amaré dulce cautiva, tú serás mi alma gemela, tus 20 años beberé.
Seré tu príncipe azul, soñado y adolescente, yo seré como tú quieras.
Y haremos de cada día una eternidad de amor, que viviremos ya hasta la muerte. Y haremos de cada día una tenida de amor, que viviremos ya hasta la muerte.
Aujourd'hui, nous recevons Christian Arago, qui est parmi les grands designers français de ces dernières décennies, le moins connu du grand public, mais dont l'œuvre continue de marquer l'histoire du design. Inventant sans cesse avec un regard lucide sur le monde, il ne s'est jamais laissé tenter par les chemins du succès. Dès 1970, Christian Arago a voulu une approche sociale et critique du design. Ses productions signalent déjà un design d'auteur, expérimenter la matière en s'abreuvant de l'air du temps, utiliser le gonflable, la mousse ou le formica, s'inspirer de la conquête spatiale, du nomadisme ou de la consommation intensive, détourner les objets. Voici tout ce qui résume 55 années de création à mi-chemin entre le design et l'art, témoin d'une démarche artistique engagée et sans cesse en mouvement d'un designer hors mode.
Dans cette émission de Dissonance, il sera question de design, bien sûr, à travers le parcours singulier de Christian Arago, où humour et plaisir ont une place prépondérante. Ce soir, il sera question d'architecture, de dessin IN et de dessin EIN, de fourchette, de mouchoir jetable, de cercueil, du Corbusier et aussi de ses amis de Charlie Hebdo.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Saint-Afrique.
Écoute, moi je suis né il y a fort longtemps. on va dire, l'année terrible, 1933, l'avènement de qui vous savez, et tout ça m'a marqué énormément. D'abord par le fait des guerres, bien sûr, la guerre 39-45, avec tout ce que ça comporte. Je vivais chez mes parents en région bordelaise, zone occupée dès le début, par les troupes allemandes, bien sûr. Et puis les sévices qui ont commencé sur les populations réfractaires, communistes, etc. Après, les difficultés de mon père prisonnier. Ensuite, bien sûr, les restrictions, tout ce que... Et puis la vie a repris. Et puis, j'ai eu droit aux formations que j'ai pu obtenir du fait que j'étais dans une famille de bâtisseurs, de maçons, d'artisans. Et que... Les trois frères, mon père et ses deux frères avaient un artisanat un petit peu en commun de maçonnerie, travailleurs de pierre. Et puis mes cousins allaient travailler également avec et je pressentais que j'allais finir maçon. Donc j'ai cherché plutôt à me former d'une manière théorique et pratique quand même. Et j'ai, je dirais, passé mes examens concernant la technologie du bois, en tant qu'ébéniste et en tant qu'ouvrier ensuite, pendant 3 ans jusqu'au régiment, voilà. Alors j'ai fait une formation théorique, je vous l'ai dit déjà, parce qu'à l'époque ça s'appelait les collèges techniques. Ça avait une formation, on allait jusqu'au bac technique, on passait par le CAP, on passait par le BEI, brevet industriel à l'époque, bac technique. Et puis avec ça, on finissait ouvrier, c'était pas mal quand même. Alors on était dissident par rapport... aux ouvriers classiques et par rapport aux apprentis classiques, parce qu'il y avait toujours l'apprentissage chez les patrons, je dirais, des corporations. Et puis nous arrivions un petit peu avec un petit i d'intellectuel de la profession, ce qui créait quelques problèmes, et c'est vrai qu'on n'avait pas la soumission de l'apprenti classique. On arrivait à 17 ans alors qu'on commençait à 14 ans, on avait déjà 3 ans de plus pour réagir, et ça paraissait pas simple quand même, voilà, et ça commençait là, voilà.
Dissonance avec
Christian Rago
sur Radio Centrafrique.
Alors le design, c'est définissable sans doute et indéfinissable à la fois, parce que c'est un terme qui, en France notamment, malgré ses origines latines, malgré l'anglicisme que l'on utilise avec la prononciation snobinarde, je dirais, de design, et plus on le parle mal, plus mieux c'est. En fait, le designer, qui vient de dessin, était déjà employé en France, dans le vieux français, sous le terme de designare, et le peintre Boucher notamment se définissait comme designare. Donc, si vous voulez, c'est un terme qui enjolive, je dirais, un métier, une profession, une façon d'aborder la production, mais c'est avant tout, le design est aujourd'hui devenu, à mon sens, un outil servile de l'industrie.
Pour préciser, est-ce qu'il y a des similitudes et des différences entre l'art, l'architecture, le design ?
Oui, il y a des similitudes, il y a des approches, je dirais, communes. Nous sommes déjà, de par l'histoire, inscrits dans les mêmes mouvements. C'est-à-dire que, nous ne remontons pas trop loin, mais l'art nouveau qui fut un mouvement artistique assez important au début du XXe siècle, notamment en France avec l'école de Nancy, mêlé à savoir artisans, ouvriers donc, peintres, sculpteurs et architectes. La famille que l'on connaît tous en France de Nancy et qui a marqué l'architecture, avec une petite aparté que je vais souligner, à savoir Jean Prouvé, dont le père était peintre et directeur de l'école de Nancy, dont le fils Claude Prouvé a été architecte également, et dont le petit-fils dont j'oublie le prénom et qui est mon ami actuellement, prouvée donc, et je vais retrouver le prénom, est aussi architecte, ingénieur chez les Anglais, chez un bureau anglais à Paris. Donc, pour vous dire, ces trois professions, on va dire, ces trois définitions, artiste, architecte, designer, sont, je dirais, nourris des mêmes choses au départ. Ensuite, ils en font chacun ce qu'ils veulent, mais, ou ce qu'ils peuvent, mais il y a une nourriture commune.
Est-ce qu'il y a une rivalité entre architecte et designer ?
Il y a une rivalité, oui, bien sûr, mais vous savez, dès qu'il y a un intérêt quelconque, il y a une rivalité. Alors, il y a une rivalité parce que le métier d'architecte remonte plus anciennement dans la reconnaissance, et que le métier d'architecte, en France, et je parle, et nous n'avons parlé que des problèmes français, le reste c'est trop complexe, problème français, la profession d'architecte a été reconnue au début du XXe siècle, puis confirmée par Pétain. Donc il est important de savoir que le DPLG architecte est une profession notoire, une profession valable à mes yeux, mais qui a une espèce d'assise sociale très forte, avec soi-disant des responsabilités énormes, soi-disant des importances, je dirais parfois un peu exagérées, et mais surtout aujourd'hui une possibilité, un rôle de communication extraordinaire.
Est-ce qu'on pourrait dire que le design s'adresse plus aux objets et l'architecture plus aux édifices ?
Oui, dans le principe, c'est ça. L'architecture s'occupe de la domus, la maison, s'occupe de l'urbanisme qui découle des maisons. Il a un sens de l'accaparation du sol et de régir le territoire. Il a tous ces facteurs. Il est très proche, à quelques nuances théoriques et pratiques près, de l'urbaniste. Il est, bon, d'ailleurs, beaucoup d'architectes sont urbanistes, et aujourd'hui beaucoup d'architectes élargissent leurs connaissances et leurs bureaux surtout par le design. Donc ils cumulent tous ces métiers-là, pourquoi pas artistes demain, mais il y en a même qui sont artistes et qui le prétendent d'autres aussi.
Par rapport à la formation ou à la création, quelle est la part ou le poids des codes établis ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de codes établis dans l'architecture, par exemple, ou dans quelque chose d'utile, qu'on pourrait dire d'utile et de fonctionnel, et le design qui serait plus la création un peu délirante, enfin un peu plus...
Je pense que l'architecture a une intériorité monumentale, à savoir qu'on retient des architectes les monuments connus, reconnus, qui ont un rôle, je dirais, important dans l'histoire des sociétés, on schématise. L'architecte des maisons, comme tu le soulignes, je dirais, il n'est pas très important à mes yeux, parce que la plupart des gens qui sont dans une maison aujourd'hui, ils ne font pas appel à un architecte pour diverses raisons. Mais on ne peut pas dire que les architectes formatent la population, pas du tout. La population subit parfois les intérêts politico-sociaux du système où nous sommes, parce qu'on a commandé aux architectes de faire ceci, de faire cela, même s'ils ne sont pas d'accord à 100%, comme, je dirais, leur monnaie passe par là, et que les commanditeurs, à savoir les politiques, les sociétés industrielles, les patrons, les grandes familles, les châteaux, etc., sont le signe d'un pouvoir auquel on ne peut pas échapper, l'architecte traduit surtout pour moi cela. Je préférerais qu'il traduise ce que tu souhaites, à savoir les maisons, oui, mais on n'est pas là. Hein.
Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout, leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups, oh, oh, les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue leu leu, dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups regardent vers Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Vol éclos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de loups sont entrés dans Paris, l'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris, oh tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Criveuil. Il installa ses dix femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans loup, oh, oh, sans loup sont entrés dans Paris, soit par ici, soit par Ivry. Sans l'eau sont entrés dans Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Sans l'eau sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que trois pattes, c'est un loup gris, des carpates qu'on appelait carême prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit six ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont envahi Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups ont envahi Paris, cessez de rire, charmant Elvire. Les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cents, perruques, carousses, liesses et bombances, dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, les loups, oh, oh, les loups sont sortis de Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups sont sortis de Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, j'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris.
Merci à Jean Vaz, Sabine Geoffrey, Michel Julliard, Isabelle Lemoyle et Christian Rago. Vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site internet de Radio Sainte-Afrique, page Dissonance. Vous y trouverez aussi les références des musiques et chansons entendues. Cette émission sera rediffusée lundi 25 juillet à 19h et mercredi 27 juillet à 9h.
Merci pour votre écoute. Au mois prochain.
Salut et fraternité.